S comme sport.
S comme sport.
C'est parti, alors c'était la transition la plus cool que j'ai vue de ma vie. J'ai appuyé sur tous les boutons, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui je suis. Bienvenue, vous êtes en direct, ça c'est la magie du direct, il est 19h, vous êtes sur RKS 97FM, la radio grenobloise, et j'insiste sur le « là » parce que, bah parce que comme vous le voyez, on est en direct, comme vous le voyez, on parle toujours avec les acteurs majeurs, les acteurs locaux de Grenoble, et ça me fait plaisir à chaque fois donc, d'inviter des nouvelles personnes. On a parlé de Dakar avec Alexandre Giroud, parce qu'il est parti au Dakar encore cette année, il est revenu, on a parlé de motocross sur la neige, on a parlé de vélo, on a parlé de basket, de plein de choses. Mais cette fois-ci, j'ai deux nouveaux invités, et on va parler de montagne, d'accompagnateur en montagne exactement. Qu'est-ce que c'est comme métier? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans la montagne? Pour parler de ça, j'ai Luc Benoît avec moi, 44 ans du Trièves. Bonsoir Luc.
Salut Fabien.
Oh. Et son compère Grégoire Bell, 46 ans de Saint-Égrève. Salut.
Et bonsoir.
Oh, quelle voix suave. Toi, t'as une voix de la radio, tu vois. Tous les deux, ils ont des voix radiophoniques. Alors, on va commencer avec le commencement, tant qu'à faire. Je suis dégoûté parce que j'ai coupé ma chanson Gilbert O'Sullivan. Bref.
Ça fait un quart d'heure qu'il veut absolument passer cette chanson. Et bien sûr, elle a été coupée. Et
c'est l'enfer. Mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est la joie du direct, comme on dit. On va commencer avec le commencement. Je disais donc AMM. C'est quoi, Luc?
Alors, AMM, accompagnateur moyenne montagne, c'est le titre officiel du diplôme.
Officiel.
Mais il paraît que c'est mieux de dire AEM parce que c'est accompagnateur en montagne.
En montagne.
Parce que être moyen, c'est pas terrible.
Ah, il me semble. Voilà. Mais donc, c'est accompagnateur en montagne, en tout cas pour ce soir, c'est officiel à RKS. C'est pour qui, c'est pourquoi ce genre de métier?
C'est pour aller se balader.
Ah.
C'est pour découvrir la nature. Et c'est pour aller jusqu'à la limite des glaciers. Ah. D'où la limite. Moyenne montagne,
d'accord.
Sauf que quand on va dans les Andes, par exemple, eh ben on peut monter assez haut sans être gêné par les glaciers. Et donc, on peut monter jusqu'à 5-6 000 mètres tout en marchant. Et puis, l'hiver, on peut racketter, c'est-à-dire se balader en raquette.
Ah, parce qu'à Grenoble, racketter, ça veut dire plusieurs choses, donc faut faire gaffe.
Ouais, on raquette, effectivement, il n'y a pas de souci. Tous les jours, on raquette en ce moment.
J'en doute pas, bande de Grenoble.
C'est pour ça qu'on est là.
Ah, voilà, il n'y a rien ici à prendre. Alors, on raquette, mais tu viens de dire qu'on peut aller dans les Andes. Ça veut dire que ton diplôme AMM, purée,
ouais.
il est dispo, il est valable partout en fait, pas qu'en France.
Il est reconnu par les autorités françaises,
voilà.
Mais il nous donne des compétences en matière d'encadrement en montagne pour aller effectivement sur tous les continents et à peu près à toutes les altitudes.
D'accord.
Tant que la glace est un peu loin.
Ah ok, mais pourquoi alors il y a cette limite de glace?
La France, c'est quand même le pays qui légifère le plus sur les métiers de la montagne, ce qui fait que du coup, notre formation et nos compétences sont reconnues à peu près partout dans le monde.
C'est
et
beau.
Donc effectivement, on est leader mountain.
Oh, c'est vrai que ça passe bien en anglais, c'est vrai. Alors, c'est quoi cette limite de glace? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on va sur la glace, faut un autre diplôme, c'est ça? C'est le guide cette fois, non?
En fait, je suis allé un peu vite, c'est ça. On est en dessous du guide et on n'a pas le droit d'emmener des gens sur un terrain
en dessous. En dessous, ça dépend quel guide quand même.
Et voilà, ça commence.
On n'a pas le droit d'emmener des gens là où il faut un matériel spécifique, c'est-à-dire un baudrier, une corde, des crampons, un piolet ou bien des skis.
Et des skis, d'accord. Donc vous, c'est balade. Voilà, il me dit. Alors, si tu me fais oui, faut le parler aussi, parce qu'avec la tête seulement, on n'est pas encore en webcam.
Je lui laissais la parole, il n'y a pas de souci. Oui, c'est balade. Alors, ça peut être balade sportive, ça peut être balade tranquille, ça peut être très large, effectivement, mais c'est que sur ou en dehors des chemins, mais effectivement, sans matériel spécifique d'alpinisme.
Que des belles chaussures qui vont bien.
Ah, il y en a qui pratiquent pieds nus.
Ah, d'accord.
C'est pas mon cas.
D'accord, on parlera de ça aussi. Grégoire. Toi, tu es AMM depuis 2012. Et toi, Luc?
2013.
Yes. Alors, la formation, ça se passe comment à peu près? On va où pour faire AMM?
Déjà, on passe un examen probatoire qui nous permet d'entrer en formation.
Yes.
Alors, il faut déjà avoir un diplôme de premier secours et il faut avoir une liste de courses qu'on a réalisées, une liste de balades qu'on a déjà faites en montagne.
Et ils vous croient sur parole, du coup?
Alors pas tout à fait.
Ouais.
C'est-à-dire que faut fournir des renseignements sur ces randonnées et le jour de l'entretien, évidemment, ils peuvent, s'ils ont ne serait-ce qu'un minuscule doute, essayer de creuser la question
et nous tirer les vers du nez.
Ah ouais.
Voilà, savoir où est le sapin, dans quel virage et quel endroit sent la marmotte ou
oh.
Quel temps il faisait ce jour-là. Vous êtes sûr? Parce que nous, on a les archives météo et on peut vous dire.
Ah ouais.
Donc non,
ça rigole pas.
Ouais, c'est sur parole évidemment, mais ils peuvent. S'ils ont des doutes, ils peuvent creuser.
Ouais, ouais d'accord.
Et partant de là, on a donc une épreuve. Alors, à l'époque où on l'a passée, on en avait plusieurs. Maintenant, tout est réuni en une seule.
Nous, notre temps.
Jadis, en 2012.
Et il faut galoper dans la montagne, se repérer, trouver des balises. Monter, descendre en étant souple et rapide pour pouvoir faire la preuve que si on a un jour un client qui va pas bien, on est capable d'aller chercher les secours.
Ah, c'est donc ça. Mais il y a les
voilà,
téléphones.
Donc, l'épreuve, effectivement, c'est longue randonnée, plus de 20 km.
Mon Dieu.
Environ 2000 mètres de dénivelé en moyenne. Et puis des balises à trouver, comme le disait Grégoire.
Avec un bon sac à dos.
Avec un sac à dos minimum de 12 kilos.
Donc,
juste pour voir comment...
Les conditions physiques de la personne.
Exactement,
quoi.
Mais après, ils nous testent aussi sur, en état de fatigue. Comment est-ce qu'on est bon ou pas en état de fatigue?
Ah oui, pas perdre son sang-froid, avoir encore les idées claires.
Tu parlais des téléphones, effectivement, on est au 21e siècle et il paraît que la société ne serait pas prête à entendre qu'on s'est perdu et qu'on n'a pas pu contacter les secours.
Ah ouais.
Et pourtant, les téléphones, ça passe pas tout à fait partout non plus.
Et on en est bien content parce que nos clients, du coup, ils peuvent lâcher un peu leur téléphone et leur clavier. Et du coup, on est très content de les emmener dans des zones blanches, mais... Ça veut dire que nous, on est en capacité d'aller chercher les secours s'il y a besoin.
Bien sûr, oui. Ah oui, j'en doute pas. Alors, donc là, on a planté le décor AMM pour devenir AMM, parce que c'était le métier. On va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet.
Vos clients... Toi, t'as cru qu'on avait fini avec la formation.
Arrête.
Là, il t'a parlé d'un examen probatoire. Probatoire, ça veut dire que ça te permet de rentrer à la formation.
Eh bien, écoute,
ça,
pour moi, c'était tellement déjà beaucoup de choses que je me suis dit, après, c'est fini, t'as le diplôme. Alors non, en continuant, excusez-moi, mais t'as bien fait, Luc Benoît, de me rappeler que ce n'est pas terminé.
J'hésite pas à te couper la parole, rien n'a changé.
Là, tu commences juste, en fait.
Ah, tu commences.
Là t'as le droit de commencer.
Si tu réussis cet examen, tu es admis à rentrer à la formation.
Ça se passe en combien de temps, tout ça, alors?
Après, la formation, elle va durer de 2 à 3 ans, pas à temps complet.
Deck.
Donc
okay.
Avec des périodes de formation une semaine ou deux semaines et puis des stages pratiques sur le terrain.
Ah ouais.
Et validé par un examen final.
Incroyable.
Voilà, donc un petit peu de boulot quand même derrière. Oui, non, on ne l'a pas acheté au coin de la rue, notre diplôme.
Vous les trouverez sur le bon coin. Donc. C'est un tampon et vous venez avec une feuille et voilà. Puis après, c'est terminé. Donc probatoire et après, il y a encore tout ça.
Après, il y a un certain nombre d'unités de formation, donc de 15 jours ou une semaine, qui sont assez intensives, qui sont sanctionnées par des petits examens chacune. Et donc, on est tenu de passer chacune de ces UF, de valider chacun des stages, de faire un rapport de stage, de présenter tout ça.
Ah ouais, c'est un vrai métier en fait. C'est un vrai diplôme en fait, le truc.
Ouais, il paraît.
En même temps, les gens qu'on emmène sont plutôt contents qu'on soit compétents et qu'on les paume pas.
Ah, j'en doute pas. Alors oui, ça arrive de se perdre ou pas?
Voilà, ça peut arriver, ouais, c'est le jeu même.
C'est le jeu, ouais.
Ça peut être le jeu. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, les clients, ils ont peut-être pas non plus, comme toi, le grand sourire en tête au début en disant « Mais ah oui, mais en fait, on sert à quelque chose. Ouais. »
Exactement, c'était ma question suivante, voilà. Mais non, on n'a pas fini avec la formation. Fini avec la formation, fini avec tout ce qu'il faut et après je balancerai les questions.
Les unités de formation après.
Ouais. Donc tronc commun sur l'anatomie, physiologie, adaptation du corps à l'effort. Ça, c'est une première UF. Ensuite, on a beaucoup d'UF qui concernent la vie de la montagne, la connaissance des plantes, la connaissance des animaux et savoir comment pas les déranger. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est des guides nature plutôt que des accompagnateurs en montagne.
Yes.
Et du coup, qu'on est des passeurs pour expliquer aux gens qui viennent découvrir la montagne comment en profiter sans trop la dénaturer.
C'est beau.
N'est-ce pas?
J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus.
Ouais, je l'ai regardé. Très bien. Non, mais alors, rien d'autre à ajouter là-dessus, c'est bon. Je lance la première pause musicale. Si vous débarquez à l'instant où vous êtes sur RKS dans l'émission S comme sport, on parle montagne, on parle accompagnateur en montagne, mais c'est du sport. Vous allez le voir juste après. ACDC, c'est le classique Highway to Hell sur RKS. We'll be right back. J'adore, j'adore. ACDC, Highway to Hell sur RKS.
RKS, S comme sport.
S comme sport.
Que c'est bon. Alors vous le savez, c'est toujours ce sont les invités qui choisissent les musiques. Et la prochaine, ce sera le cas. On s'est briefé pendant la petite musique là. Donc vous allez voir, la tradition continue sur RKS. On est en direct avec nos accompagnateurs Montagne. Pour parler Montagne, ils nous ont expliqué un peu comment se passait la formation. C'était à partir de 18 ans. Mais alors, vous servez à quoi? Parce que ouais, je vais poser des questions comme ça. Hein. C'est parce qu'il y en a qui vous connaissent pas. On se dit mais on va se promener en montagne, mais on n'a pas. Voilà, on se promène en montagne. Puis c'est tout. C'est un peu comme ceux qui font du vélo. Ils pas besoin d'accompagnateur, de moniteur, tu vois. Mais en fait, si quand on va au ski, on prend un moniteur. Quand on va faire du vélo, on prend un moniteur de VTT. Et alors quand on va en montagne, on peut être encadré, bien sûr.
Luc. Alors, différents intérêts à prendre un accompagnateur en montagne. Faire découvrir une région, emmener les gens en sécurité.
Yes.
Donc ça, c'est quand même important. La base, quand même, elle est là. Et effectivement, comme le disait Grégoire, découverte de la nature, essayer d'avoir un impact minimal sur l'environnement, savoir reconnaître les animaux, les fleurs, les empreintes d'animaux dans la neige l'hiver. Donc c'est vaste. Les essences d'arbres également, on pourra en parler, parce que je crois qu'on a un spécialiste des arbres à nos côtés. Et la géologie, j'allais l'oublier, donc les roches, les fossiles, les minéraux. Voilà la palette que l'on peut apporter à nos clients.
Exact. Greg a rajouté, oui.
Bah oui, pour compléter, en fait, la partie sécurité, elle est complètement invisible. C'est-à-dire que nous, on emmène des gens, on est complètement détendu, les gens aussi, parce que c'est notre job. Et du coup, on peut se concentrer sur la nature.
Et j'en doute pas. Alors moi, je posais les questions justement parce que c'est un métier qu'on connaît pas vraiment. Même si on est à Grenoble, on se dit que voilà, c'est balisé partout, on peut y aller tout seul. Mais non, parce que même étant de Grenoble, j'avoue que j'ai déjà fait appel à un AMM pour des sorties raquettes avec les copains. Parce qu'au moins, comme vous dites, il nous a fait marcher. Il nous a fait donc pas marcher que sur les sentiers justement. Et il nous a fait le petit fond de sac de l'AMM. Je pourrais en parler de ça aussi pour nous faire découvrir la faune et la flore. Et c'était vraiment intéressant. Alors que voilà, on est des jeunes, on pouvait sortir sans AMM. Mais en fait, ça apporte une vraie plus-value, c'est tout simplement, c'est top, c'est magnifique.
Donc c'est vrai qu'on est brevet d'État éducateur sportif, ou diplôme d'État d'éducateur sportif pour les petits jeunes qui viennent de passer le diplôme. Et donc si on l'est en ski, c'est une évidence pour la plupart que c'est pour apprendre à skier. Donc là, on peut se demander si on va apprendre aux gens à marcher. Alors ça peut, oui, être parfois le cas dans des terrains particuliers, sur
les
cailloux,
ouais.
Sur la neige avec les raquettes. On peut avoir une compétence technique sur comment effectivement se déplacer, mais la sécurité, elle va bien au-delà de ça. Elle va de savoir reconnaître un état de fatigue, savoir être capable de reconnaître si les gens vont pouvoir aller au bout, faire les objectifs, parce que quand on a des clients, ben, la plupart, on ne les connaît pas.
Exactement.
Ils peuvent te dire qu'ils sont
en forme,
et que c'est pas le cas, ou au contraire ils peuvent te dire moi je fais des choses tranquilles, puis en fait tu te rends compte que
c'est un ouf le mec.
Voilà, ils ont un gros niveau physique. Ouais. Donc il y a ça qui est important. Il y a aussi la gestion de la météo, savoir regarder les signaux d'alerte.
Mais t'as des contacts avec la météo toi, c'est bon, tu peux.
Ah bah la météo c'est nous. C'est à dire que là. Tout de suite, là, maintenant, je peux vous donner la météo d'hier, ça, on est sûr.
À 100%.
Voilà, pour ce qui est du lendemain, on sait qu'il y a encore un petit peu, parfois, des...
Avec un doigt mouillé, on s'en sort pas mal.
Voilà, des approximations sur ce qui se passe, mais voilà, savoir reconnaître les signes avant-coureurs d'un changement de temps, qui peuvent être vraiment gages de sécurité ou d'insécurité
bien
en
sûr,
montagne,
ouais.
C'est important.
Mais alors, moi, j'ai une question peut-être pas drôle, mais un peu drôle, pas moqueuse, mais quand même un vrai... Quand il y a des gens, du coup, un peu en surpoids.
Comme moi, tu veux dire ?
Non, tout de suite. Non, tu es bien charpenté, Luc Benoît. Benoît, pourquoi Benoît, c'était pas Benoît ? Raconte-nous.
Ah, la transition, encore
ouais,
une
je
fois.
Sais.
Alors, un petit peu d'étymologie.
Exactement. Parce que c'est Benoît avec un ST à la fin.
Benoît avec un S et un T à la fin. Pour ceux qui connaissent le prénom Benoît avec l'accent circonflexe sur le I, ils savent peut-être que l'accent circonflexe dans la langue française a remplacé le S comme dans Forest, Hospital, où vous retrouvez actuellement l'accent circonflexe. Donc Benoît en ancien François.
Merci.
Du vieux temps, c'est.
Voilà, merci, t'es content ? Benoît. Ah ben oui, on peut retourner à mes gens remplis de McDonald's, par exemple. Et si, est-ce que tu les sens pas ? Et tu te dis, écoutez, vous, on va peut-être y aller mollo.
Ah, j'ai un exemple.
Ah, ben, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on préfère ici.
J'ai un exemple l'été dernier d'un client qui a eu la bonne idée de choisir la sortie Marmotte à Grès-en-Vercors à la demi-journée.
Yes.
Et il s'était inscrit également à la sortie Grand Vémont avec 1100 mètres de dénivelé le mercredi matin. Et suite à la sortie Marmotte, on a discuté pour convenir d'un commun accord qu'il ne fallait pas qu'il vienne au Grand Vémont.
Ah, c'est beau. Et alors,
que, ouais. Effectivement, le surpoids, l'âge, les cigarettes faisaient qu'il avait eu du mal à monter.
Ah,
et c'était rien par rapport à la façon dont il avait eu du mal à descendre.
Ah mince.
Donc le Grand Vémont, on y serait peut-être monté, mais on ne serait jamais redescendu.
Eh
donc,
eh ben, si tu faisais la transition baptême en hélicoptère, Luc.
Oui, alors, c'est un choix. Donc nous, comme te disait Grégoire, effectivement, on s'est tourné sur quand même la découverte de la nature, hein, avec un petit côté quand même préservation de celle-ci. Donc l'hélicoptère, surtout hommage dans S comme sport à Kobe Bryant, on va éviter en ce moment.
Ah, en plus, mais surtout les secouristes, on va quand même laisser tranquille pour ce genre de choses. Quoi.
Voilà,
ils sont là quand on a besoin d'eux.
Voilà.
En revanche, des personnes en surpoids, on peut les emmener. On est.
Oui, ça là, c'est pas
totalement
proscrit, bien sûr.
Voilà,
oui.
Voilà, mais on va adapter la difficulté, le nombre de pauses, le rythme de marche à leur capacité, de manière à ce qu'ils puissent s'éclater, faire un truc qui leur plaît, à ce qu'ils puissent éventuellement se faire du bien au corps.
Yes.
En brûlant quelques calories.
Exact. Mais tu sais que j'ai eu cette question parce que j'ai vu un musher accueillir des gens un peu forts et en fait, il ne rentrait pas dans le traîneau. Du coup, difficilement. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a fait réagir
nous,
à vous.
Il faut juste qu'ils rentrent dans leurs chaussures.
Dans leurs chaussures, voilà. Non, mais en fait, ça m'a fait penser à ça parce que je me dis, après, en montagne, c'est vrai que quand on part, ça reste quand même un terrain dangereux, la montagne, si on, parce qu'on peut se blesser, parce qu'on n'y a pas le téléphone des fois. Donc voilà, c'était ma question technique et réelle. Des personnes en difficulté physique.
Il faut adapter effectivement l'activité, mais il n'y a aucun souci. C'est aussi l'avantage et la largesse de notre métier, c'est qu'on peut tout faire.
Quel mot choisi ?
Voilà. Avec n'importe qui aussi.
Ouais, bien sûr.
Sinon, on ne serait pas là ce soir. Vas-y, excuse-moi.
Bah non, mais en tout cas, on peut trouver des tas de trucs super intéressants à regarder. Et on peut se faire plaisir sans aller très loin, sans faire des exploits sportifs.
Yes, et la montagne.
Gens,
ouais.
Les gens sont super contents de découvrir, d'observer une fourmilière, par exemple, de près.
Quand on peut la reconnaître, parce que c'est vrai qu'il faut déjà reconnaître la fourmilière. On n'en voit pas à Grenoble, je crois pas. Hein.
On t'emmènera en reconnaître une, Fabien. Pas de souci.
J'ai peur. Et autre chose, des petits. Donc on fait découvrir des groupes. Ça va jusqu'à combien pour un accompagnateur?
Ah, ça, c'est le point épineux de la question.
Il n'y a pas de limite.
Tu veux savoir ce que dit la loi ?
Allez, on va commencer par ça, Luc. Voilà.
Voilà. La loi dit qu'il faut juste être capable d'emmener les gens en sécurité.
Ah bah 2000, c'est bon.
Après, la loi dit aussi qu'on n'a pas le droit de faire de concurrence déloyale. Donc, si il faut se conformer à ce qui se fait dans la région où on travaille.
Ah, d'accord. Il y a une loi tacite, quoi, entre vous, non ?
Exactement. Ouais. Alors, avec les mineurs, il y a les directives de jeunesse et sport ou de l'éducation nationale quand on travaille avec les scolaires.
Yes.
Mais pour ce qui est des adultes, c'est juste un fait établi. Voilà. Certains bureaux travaillent avec 12 adultes maximum, d'autres avec 15. Là, il n'y a pas de limite légale. Il faut juste être capable de ramener... tous les gens en sécurité.
D'accord.
C'est ça. Donc adapter l'objectif du jour à la forme du groupe, à la durée de marche, enfin voilà, faire que tout ça corresponde pour que chacun puisse passer un bon moment.
Moi j'ai déjà fait 48.
Oh mon Dieu.
Record battu, je m'aligne.
Est-ce que tu te rappelais des prénoms de tout le monde, ça?
Oui, évidemment. Et j'ai fait à l'inverse, j'ai fait 3.
C'est convivial.
Journée complète avec gros dénivelé sur les hauts plateaux du Vercors avec 3 personnes. Ou journée scolaire ou sur 4 classes, ben il y a un accompagnateur qui est jamais venu, donc on s'est partagé la 4e classe.
Bien ça.
Et donc on s'est retrouvé avec
combien
moi,
de pertes,
en tout cas 48 personnes derrière moi.
Ah ouais.
En file indienne.
Mais
avec
toi,
des
ça,
raquettes.
Vous le voyez pas, mais il est grand et costaud, donc s'il dit à gauche, on va à gauche en fait. Il y a pas de problème avec ça.
Sinon j'ai la machette.
Ah voilà, ça aussi ça fait partie du fond de sac de l'AMM ou pas?
Toujours.
Toujours.
Parce que décrivez un peu ce qui s'est passé justement dans ce fond de sac, parce que moi je l'ai vu, mais je le décrirai moins bien que vous, c'est même sûr.
Bah une trousse de secours déjà, de base, pour pouvoir faire face à la bobologie ou à des choses plus graves, mais
yes.
On n'aime pas la sortir, en général elle ne bouge pas, mais elle est là. Une couverture de survie pour les mêmes raisons, hein, quelqu'un qui fait un coup de moins bien et qu'on peut mettre au chaud. Voilà, un opinel.
Et des petites
une
pattes.
Corde.
Une corde.
Ah, ça va à l'encontre de ce qui t'a dit tout à l'heure.
Ouais,
non, une corde, ouais, une corde dans le fond de sac avec la possibilité d'avoir quelques mousquetons. On n'est pas censé les sortir.
Ah.
Sinon, on est hors cadre, effectivement, yes. comme Grégoire disait sur l'emploi du matériel d'alpinisme. Mais voilà, il faut l'avoir dans le sac au cas où. Donc, plusieurs cas, soit la personne ne se sent pas bien à un endroit, a besoin d'être sécurisée, une partie du chemin qui s'est éboulée suite à un orage ou quoi, ou caisse, enfin, bref. Il faut qu'on ait une corde dans notre fond de sac pour pouvoir évoluer en toute sécurité et ne jamais la sortir.
Voilà, si vous voyez une corde sortie, c'est que ça ne va pas.
Faut la couper.
Donc ça, c'est le côté technique et sécuritaire obligatoire.
Yes.
Après, je pense que tu parlais du fond de sac d'AMM sur plus ce que
des
nous,
petites pattes d'animaux et tout ça. Ouais.
On appellera les outils pédagogiques.
Appelons ça des outils pédagogiques. C'est parti. Parle-nous alors un peu de ce qu'on peut retrouver, parce que moi, j'avais trouvé ça super cool.
Et bien effectivement, des pattes d'animaux pour montrer comment ça fonctionne bien ou pas bien en fonction du type de sol, tout simplement. Hein. Yes. Une patte de chevreuil dans la neige, ça marche pas très bien. Une patte de loup, c'est mieux. En général, on n'en a pas, parce que c'est un animal protégé.
Alors, on n'a pas
le droit de les trimballer.
Voilà.
Moi, j'ai un diapason pour appeler les araignées. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Comment ça, un diapason?
On peut avoir des boîtes loupes.
Un diapason, ça fait le la, et du coup, ça fait exactement la fréquence que fait un diptère, donc une mouche, quand elle est prise dans une toile d'araignée.
Arrête quand ça vibre dans la toile là.
Alors certaines araignées sont dupes, d'autres non, mais certaines foncent dessus pour mordre le diapason, c'est assez rigolo à voir.
Mais
pensais-tu
non.
que Grégoire parlait aux araignées?
Non, tu vois, t'as pas l'air d'un mec qui parle aux araignées.
Et si.
J'ai aussi des stéthoscopes pour écouter les fourmilières par exemple.
Oh.
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Après, ça dépend du thème aussi. Donc, t'as le fond de sac classique avec les pattes, les cornes, les bois des chevreuils ou des cerfs. Mais on peut, si tu pars sur une sortie géologie, tu vas plutôt emmener les fossiles, quelques réactifs chimiques pour faire des tests sur les cailloux qu'on va rencontrer. des loupes pour étudier, par exemple, les petites fleurs.
Oh, c'est
bref.
Beau. C'est un peu, c'est vous êtes des poètes un peu.
Des bouquins, parfois.
Pourquoi faire? Si vous êtes perdu et que vous attendez les secours.
Alors, c'est aussi parce que des fois, on n'arrive pas à atteindre la marche. Ça peut faire marche-pied, les gros bouquins.
Oh là là.
Non, mais évidemment, je ne crois pas. J'espère parler en notre nom à tous les AMM.
C'est beau.
On a toujours une marge de progression sur les milieux à découvrir. Donc, parfois, c'est bien d'avoir le bouquin sur soi pour découvrir des nouvelles espèces d'araignées ou de fleurs ou de tout autre sujet, mais sur lequel on veut approfondir.
Parce qu'il reste des choses qu'on ne connaît pas, et ça, c'est beau. On va se faire une pause musicale. Il prend son papier parce que c'est la tradition. Si vous débarquez à l'instant, vous êtes sur RKS 97 FM à Grenoble, S comme sport, avec nos accompagnateurs en montagne. Et la tradition veut que ce sont les invités qui balancent la musique comme des animateurs radio. Donc, t'oublies pas que tu finis bien par sur RKS. Ok, je compte sur toi.
Pas.
Allez, c'est Grégoire.
C'est pour Chloé.
Belle, et qui va nous dire, allez, vas-y, balance.
Eh bien, le temps est bon, à de bon entendeur, et c'est sur RKS.
C'est beau.
Les amants sont douloureux.
RKS, S comme sport. S comme sport.
De retour en direct sur RKS 97 FM, S comme sport avec nos accompagnateurs en montagne. Ils sont toujours en forme. Grégoire. Et notre ami Luc.
Ouais, je suis à fond.
Alors Luc, il me semble que tu as regardé ton téléphone pendant la petite pause musicale.
Du coup, j'ai un carton jaune ou...
Et non, et du coup, il me semble qu'il y a la famille qui écoute.
Il paraît.
Ils viennent d'où, la famille? Sont grenoblois ou pas?
Ah, la famille Benoît, elle est un petit peu partout dans le monde maintenant, mon garçon.
Ah mince, ils se sont exportés, ça y est.
Ouais. Alors, on est à l'antenne, on est à l'antenne.
Il dit ça parce qu'en fait, il y a un technicien qui est sous nous, en train de tirer des câbles.
Enfin, sous le bureau de Fabien, et je veux pas voir ce qui s'y passe.
Mais c'est vraiment... ça ne s'arrête jamais dans cette radio. Il y a des techniciens partout. Et en plus, ils crient sous la table, quoi. C'est incroyable. Ferme la porte, s'il te plaît, Grégoire. On est en direct, bon sang, respectez mon travail. Alors, on était avec nos accompagnateurs, je disais... On a parlé de la formation, il y a un recyclage de la formation, m'a-t-on dit.
Tous les 5 ans, il paraît.
Sous les 6, me dit Luc. Mettez-vous d'accord, les gars.
Ça balance. Bref, très rapidement après avoir été diplômé.
Ouais, voilà. On vous redemande de venir.
Voilà, vous voyez la benne verte. Ah, ben voilà.
Voilà.
Donc, effectivement, on est recyclé. Donc, quelques jours de formation qui sont exclusivement orientés sur la sécurité. Donc, remise à niveau pour les premiers secours, parce que les choses évoluent.
Le corps change.
Oui, exactement.
On fait des nouvelles...
On masse à gauche, on masse à droite.
D'accord.
Voilà, donc suivant comment est placé le cœur. Et un truc tout bête. Avant, sur les hémorragies, on faisait des points de compression. Maintenant,
exact.
On ne fait plus de points de compression sur les hémorragies.
On laisse couler. Si les clients sont vraiment pénibles...
Il y a plein de chances comme ça... Puis avec les vautours et les loups, on peut se débarrasser des corps facilement. Donc
ça me fait peur parce qu'il dit ça de manière assez sérieuse quand même.
Évidemment.
Mais voilà.
Et dans ce recyclage, donc on rencontre des gens qui viennent un petit peu partout dans les Alpes, la plupart du temps, voire d'ailleurs. Et on se rend compte qu'on ne fait pas tous le même métier, voire même on ne fait pas du tout le même métier.
C'est-à-dire ?
Y a un collègue qui ne travaille qu'au Groenland, par exemple.
Mais c'est pas à côté, oui.
D'autres qui ne font que des scolaires et des enfants en termes de centres de loisirs et colonies de vacances.
D'accord.
D'autres qui travaillent que sur des treks, donc qui travaillent à la semaine. Ils n'ont pas la possibilité, ils ne se rendent pas compte que nous, on peut travailler à la journée, voire à la demi-journée. Donc le monde des accompagnateurs en montagne est très vaste.
Très divers.
Très divers, et effectivement, on rencontre de tous les profils, entre des treks sportifs avec énormément de kilomètres et de dénivelés, jusqu'à des balades où il suffit de faire 50 mètres dans les bois pour perdre les enfants.
Ça sent le vécu, ça me fait peur.
Mais non, mais le perdre dans le bon sens, enfin, mon
Fabien.
Ah
oui, bien sûr, oui.
Les dépayser, les sortir de leur environnement
d'accord.
urbain.
Leur faire lâcher leur tablette.
C'était ça.
Exactement.
Vous y arrivez on va parler de ça, tiens. Voilà, t'as lancé la pierre. Les tablettes, les téléphones, est-ce qu'il y a vos clients, il y en a qui arrivent à décrocher ou est-ce que c'est compliqué? Ils veulent quand même être géolocalisés, ça fait des selfies avec tous les arbres. Comment
alors en général, quand ils ont trop les yeux sur la tablette, ils finissent le nez sur le gazon et ça fait mal. Moi, là, j'ai une anecdote comme ça, effectivement. Un Américain qui prenait plein de photos et il a fini avec le cadran de l'appareil photo encastré dans le nez qui saignait un peu et l'appareil un peu abîmé.
Voilà.
Est-ce que ça a pris la photo au moins quand il est tombé?
J'ai pas vu le résultat, mais par contre, il a fini par le lâcher.
D'accord. Ah ouais, donc c'est vrai qu'il y en a quand même qui n'arrivent pas à décrocher.
C'est parfois difficile, mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a des zones blanches où, de toute façon, si on les amène là, ça passe plus, donc c'est le premier réglé.
Des problèmes, toi aussi, Luc, avec les écrans?
Non, aucun problème avec les écrans, enfin. C'est pas possible.
Je leur dis non, et tout de suite, ils le rangent. Ok.
Non, mais la plupart du temps, quand même, sur les adultes, en tout cas, c'est des gens qui sont demandeurs. Donc, ils se plient assez facilement à ce genre de consignes, si on est obligé de les donner, mais... Pour ce qui est des jeunes, sur des sorties avec des ados, c'est plus ceux-là où ça risque d'être compliqué. J'ai souvenir, il n'y a pas si longtemps, d'avoir fait avec un copain que nous avons en commun, salut Jean-Pierre si tu nous écoutes.
JP m'a-t-on dit.
Voilà, JP. Toutes les 2 heures, il faut changer l'air du bocal, spécial dédicace. Avoir fait une nuit en igloo avec des ados. Et ben, Jules, je ne connaissais pas, pour tout vous dire, je n'écoute pas beaucoup la musique actuelle, mais alors Jules, pendant 2 heures dans l'igloo, là j'avoue que j'ai failli péter un plomb quand même.
Et moi, j'en ai un équivalent. C'était un tour du Mont Blanc où effectivement, les jeunes qui étaient repérés par des services de prévention, voire même, c'était après les bêtises, donc qui avaient des petits soucis avec la justice.
Ouais.
Et eux, la question principale de la journée, c'était est-ce que ça capte au bivouac ? On était dans un tipi à 8 dedans. Et à un moment, on aurait bien aimé que ça capte plus, mais sur le tour du Mont Blanc, ça capte.
Ah mince, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, tu sors pas avec une antenne au cas où si ça capte pas, que tu montes un mât de 6-8 mètres pour avoir un bon signal, je comprends pas.
Mais on a toujours une antenne sur nous, enfin.
Ah bon.
C'est évident.
Ah oui.
Ça fait partie du fond de sac.
Ça fait partie donc du fond de sac des AMM, on le savait, pour être connecté. J'aimerais qu'on parle. Donc on a parlé anecdotes. On va parler un peu plus de ce que tu fais, Grégoire Bell. 46 ans, Saint-Égrève, c'est bien ça, toujours, oui.
Toujours.
Tu dors dans les arbres, on m'a dit, c'est pour
oui,
ça que je suis invité.
Alors effectivement, beaucoup de collègues ont ce qu'on appelle maintenant de la pluriactivité, c'est-à-dire que ça veut dire qu'on a plusieurs métiers.
Yes.
Donc je connais des accompagnateurs qui sont pisteurs, sculpteurs, moniteurs de ski et lagueurs.
Ah,
et moi, j'ai un autre métier qui est assez en lien avec le premier, qui est que je suis éducateur en grimpe d'arbres, ça veut dire que j'emmène les gens en haut des arbres. Et contrairement à un parc aventure, moi j'ai installé des cordes dans l'arbre. Et une fois que l'animation est terminée, j'enlève les cordes. Donc on peut aller dormir à 20 mètres du sol en hamac ou sur des plateformes qui seront retirées après l'animation.
Ok, j'ai une question là du coup. Parce que je trouvais ça cool, ce que tu es en train de me raconter. Mais la nuit, des fois, je bouge un peu. Alors est-ce que tu es attaché dans ton hamac, dans ton machin ?
Ouais. Ça dépend.
Qu'est-ce qui dépend ?
Bah, ça dépend.
Oh, mon
ça
Dieu.
Dépend si... ton épousé nous a fait passer l'assurance vie avec une enveloppe en liquide et ta photo. Dans ce cas-là, on t'attache pas, Fab.
D'accord, j'ai compris.
Si t'as pas une croix rouge sur le front, normalement, ouais, je te confie un baudrier et tu restes attaché toute la nuit. Ce qui fait que les gens qui sont un peu bouge-bouge restent quand même dans l'arbre.
Ah, c'était ma vraie question parce que je me dis, tu te retournes ou pas, t'es en hamac. Si le hamac est accroché, cool. Mais est-ce que toi, t'es accroché ?
T'es accroché. Non, le problème, c'est le pipi de la nuit. Il faut redescendre et remonter.
J'avais pas pensé
c'est
à
un
ça.
Peu, c'est un petit peu technique et compliqué.
Eh ben, tu
réfléchis à trois fois en y aller.
Alors, faut redescendre.
Eh ben, ouais, c'est mieux.
Mais ben, attends, parce que.
Et oui, Fabien, il faut redescendre.
Sinon,
tu ne
ça
peux pas faire du haut de l'arbre.
Ah, parce que oui.
Ce n'est pas bien.
Non, mais parce que j'ai. Du coup, on parlait avec un gars justement dans l'émission S comme Sport. Vous pouvez écouter ça en podcast sur radio-rks.fr. Il y a d'autres émissions. Un gars qui était en parapente, il m'a dit que non, ils font ça dans les bouteilles.
Alors en parapente, je connais pas, mais effectivement, je peux l'entendre. Nous, dans les arbres, l'idée, c'est qu'on est quand même nombreux, qu'éventuellement, on va revenir et que donc, on n'a pas envie que le pied de l'arbre ait une odeur désagréable.
C'est pour ça,
donc,
je comprends.
Donc, on va s'écarter un petit peu.
Je comprends, hein, parce que sinon, vous faites ça dans des bouteilles, parce que j'ai cru comprendre que Mike Horn, il faisait ça dans une bouteille. Après, il mettait ça dans ses pieds et ça réchauffait un peu pendant quelques minutes.
Bah évidemment, a priori, ça sort à 37 degrés. Donc
voilà, donc là, on est pas... là, c'est un autre bon plan, tu vois.
J'ai jamais emmené Mike Horn dans un arbre, donc je ne sais pas.
En milieu froid, effectivement, c'est une solution de secours.
Ah, voilà.
Mais la bouillotte fonctionne bien comme ça, mais... Non, non, c'est pas une habitude
mais
non
là,
plus tous les jours.
Mais ça veut dire que les gens...
Sinon, on serait pas là avec toi à Grenoble quand même. On n'est pas tout le temps en mode survie comme Mike Horn.
Ah ouais, d'accord. Et encore même lui, pas tout le temps. Mais du coup, ça veut dire que quand ils ont envie de faire pipi, ils peuvent y aller tout seuls. Parce que moi, je vais poser des questions super techniques, tu vas voir. Ou alors, est-ce qu'il faut qu'ils te réveillent en disant on est sur un gros dossier là, faut qu'on y aille.
Alors, j'aime autant avoir l'œil qui traîne parce qu'au milieu de la nuit, les gens sur corde. Je préfère vérifier qu'ils ne font pas de bêtises.
Que tu n'en retrouves pas un pendu par les pieds.
Voilà, c'est jamais arrivé, mais bon, on préfère avoir un œil qui traîne. Et donc, je préfère être réveillé, effectivement.
Et j'en doute pas, d'accord. Donc, ils disent ça.
Donc, on évite les tisanes du soir dans cette pratique-là. On s'arrête de boire trop d'eau à partir de la fin de journée pour garantir une nuit sereine sans trop de réveil.
C'était la rubrique hydratation non, sur RKS.
Non mais tu sais qu'il y a plein de gens qui font pas plein de choses parce qu'ils se posent plein de questions et ils n'ont pas les réponses. Parce que dormir dans les arbres, bonjour aux techniciens et aux directeurs d'antenne qui viennent d'entrer dans le studio et ils sont encore en train de bidouiller des boutons, c'est infernal. Et ils se posent des questions et techniques comme celle-ci et je pense qu'il sait bien d'y répondre. Alors comment ça se passe, t'emmènes combien de personnes ? Est-ce que c'est haut dans les arbres ? Parce que dans les arbres, il y a des branches à 1 mètre, hein, donc ça peut être cool aussi hein, pour commencer. Ou est-ce que c'est à la cime des arbres, quand il y a du vent, on sent que ça bouge, c'est la panique à bord ? Tout ça.
Tout y est. Tout y est, effectivement. On peut, chacun son sommet, donc pour moi, le but, c'est pas d'aller en haut de l'arbre.
C'est beau,
même
ça.
Si les cordes, elles sont attachées jusqu'en haut, ou quasiment, hein, jusqu'à la cime. Donc, c'est possible d'aller jusqu'en haut. Et c'est vivement recommandé, mais chacun s'arrête où il veut.
Yes. T'as tes spots préférés, toi?
J'ai des arbres préférés, des spots préférés, j'ai des essences forestières que je préfère escalader à d'autres. Ah bah, les chênes, les hêtres sont des arbres extrêmement solides. Okay. À l'inverse, les peupliers sont cassants comme du verre et du coup, c'est beaucoup moins serein pour pouvoir escalader là-dedans. Voilà, le vent, c'est absolument génial. Quand on est en haut d'un arbre et que tout bouge, on se sent comme sur un bateau.
Ah ouais.
C'est dément.
D'accord.
Donc, mais c'est comme tout, ça dépend du dosage.
C'est voilà ce que j'allais dire, parce qu'on a connu des tempêtes quand même.
Alors j'ai une petite anecdote, effectivement, la dernière grosse tyrolienne que j'avais installée dans un hêtre, le départ, il y avait gros vent, et effectivement l'arbre il secouait, et les gamins ils savaient plus s'ils étaient déjà partis, s'ils étaient encore sur la branche.
Est-ce qu'il faut vraiment y aller? Est-ce que le mec est pas fou? Je comprends tout à fait. Alors toi, tu mets tout ça dans l'arbre, donc toutes les cordes. T'as combien de mètres de cordes pour assurer tout le monde?
Eh ben, je me trimballe 350 à 400 mètres de cordes à chaque fois, puisque j'ai le droit d'emmener 8 personnes.
D'accord.
Et qu'on peut ancrer ces cordes quasiment au sommet, hein, jusqu'à ce que les tant que les branches sont suffisamment solides. Donc ça, c'est mon métier, mon expertise.
8 personnes dans l'arbre.
Le voir. Et donc, on peut avoir effectivement du monde et aller assez haut.
Ah ouais, incroyable.
Par contre, c'est une technique qui est hyper sûre. Et du coup, il n'y a vraiment
zéro risque.
Aucun problème.
Yes.
J'ai même travaillé à l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève avec des gens. Donc
c'est là qu'on l'a récupéré.
C'était donc ça, cette histoire de dormir dans les arbres. Okay.
Tout vient de là.
Tout vient de là. Voilà, non, mais même des gens qui ont des difficultés psychiques sont en totale sécurité dans un,
Donc c'est pour tout le monde. Un âge minimum peut-être?
6 ans, 6-8 ans.
Ouais,
pour 6 ans. Ouais,
parce que tu n'as pas envie de les monter en fait, dans l'arbre, c'est ça?
C'est ça, sinon il faut les monter soi-même, voilà, en fait, et c'est un peu lourd. Surtout, c'est pour manipuler les cordes, en fait, la capacité à gérer la succession de mouvements qui permettent de s'élever.
Dac. Luc.
Moi, je grimpe pas dans les arbres.
Pas encore.
Les arbres te disent merci.
Les arbres ne veulent pas. Ils ont dit non.
Ah, il dit ça parce qu'il est grand et costaud. Tu fais combien, toi? 1,90
Oh, ça dépend des jours, enfin.
Ah, ouais. Voyons. Ça dépend de sa coiffure.
Moi, je dors au sol. Je dors au sol. C'est en igloo, par exemple.
Ah, et toi, tu fais des igloos, c'est vrai.
Ouais,
on en a parlé un peu.
Ouais.
Donc, voilà. Donc...
Mais c'est pareil, la gestion du pipi la nuit, même topo, quoi.
Bah attends, mais en igloo, ça sent pas. Tu creuses ton trou, tu
rebouches. Oui, oui,
oui.
T'es content pour le petit déjeuner.
Alors, igloo, c'est toi qui l'ai construit.
Alors, oui, oui. Le mieux, c'est que ce soit les gens avec qui on...
Ah, donc tu les fais bosser.
Ah bah, évidemment. Évidemment, c'est bien le principe. On est payé à
faire bosser les autres. C'est magnifique.
En même temps, ça peut leur servir le jour où ils sont perdus dans la montagne sans accompagnateur.
C'est vrai.
Savoir faire un igloo, ça leur permet de survivre.
Et j'en doute pas. Mais alors, il y a une technique un peu. Parle-nous un peu de la construction d'igloo. On dort à combien dedans? Tout ça, tout ça.
Alors, j'en ai fait une fois où je tenais debout dedans au centre.
Et je vous rappelle qu'il fait 1m90, ça allait, bonjour.
Voilà, et il y avait 14 gamins autour de moi, assis. Pas pour y dormir, évidemment, ce jour-là. C'était
D'accord.
juste de la construction.
Okay.
Mais c'est pour dire la taille que ça peut faire.
Ah, bien,
il n'y a pas de limite. La neige est un matériau tellement génial qu'on peut à peu près tout faire.
D'accord.
On n'est pas au niveau des Inuits encore,
ah ouais.
Mais on peut faire le système classique rapide qui est l'abri norvégien, donc un tas de sacs, une bâche, un tas de neige par-dessus, on fait un énorme tas de neige, puis après ben, on creuse pour récupérer les sacs et ça nous fait...
Mais non, c'est ça la technique.
Ça c'est la technique de base, mais on peut aussi faire des cubes avec des caisses, remplir des caisses de neige, faire des petites briques de neige et construire en tournant comme les Inuits. On peut aussi faire de la découpe sur de la neige dure avec des scies. Pareil pour le même système, avoir des blocs. Donc
trop cool, voilà. Ça. Si vous débarquez à l'instant, vous êtes sur RKS, on est en mode survie. En cas de pépin avec nos accompagnateurs en montagne, à Luc Benoît.
Donc là, il va falloir plutôt tourner sur les inondations parce qu'effectivement, la neige.
Ouais.
Bon, si elle arrive demain, il paraît qu'elle arrive.
Oui, on espère parce que les moyennes montagnes, moyennes stations, c'est ça, hein, elles en ont besoin quand même.
Les stations de moyenne montagne, cette année, elles souffrent un peu.
Elles souffrent un peu, donc on voit que la limite pluie-neige remonte avec le temps.
Alors, ce qui est bien pour nous, puisque effectivement, si ça complexifie le fait de skier, pour aller se balader en raquette, il suffit d'assez peu de manteaux.
Ouais.
Et du coup, on peut profiter malgré tout des traces des animaux et de la forêt enneigée en hiver, même s'il n'y a pas des épaisseurs qui permettent le ski, par exemple.
On arrive à 43 et j'ai gardé ma question pour la question mystère, la question bonus. Je voulais parler d'un sujet avec vous, les AMM. Est-ce que vous me voyez venir?
Non, pas du tout.
Purée. Allez, balance.
Ça fait que 3 jours que tu fais monter la sauce.
Ah,
j'ai eu le temps d'y réfléchir.
Ah, c'est pour ça.
J'ai ma petite idée, mais je vais te laisser ton teasing.
Mon teasing de folie parce que j'ai envie d'avoir votre avis. Vous êtes au cœur de l'action, j'ai envie de dire. Alors, la chasse. Est-ce que vous y êtes confronté? Est-ce qu'il y a des anecdotes, mais heureuses, j'espère, parce que en fait, on a vu ça avec le monde du VTT. Il y a eu pas mal d'accidents ces derniers temps. Les animaux, est-ce que vous en voyez encore? Tout ça, tout ça.
Sujet polémique. J'avais une chance sur deux.
J'étais obligé de vous en parler.
J'hésitais quand même entre le réchauffement climatique et le fait que Trump ait bien dit que c'était les Chinois qui avaient inventé ça, que c'était une notion qui n'existait pas.
Mais ça, parce que ça c'est acté.
Ou le sujet de la chasse.
Ben ça, c'est acté, le réchauffement climatique.
Ah bon, t'es sûr? Non, parce qu'il y en a qui sont encore pas d'accord.
J'ai pas lu que t'es en t-shirt, on est en janvier.
Voilà.
C'est vrai Fabien qui réchauffe l'atmosphère.
Oh, c'est beau. Non, c'est vrai que le réchauffement climatique, c'est un gros problème. On en parle un peu vraiment dans l'émission, parce qu'on a eu pas mal de gens du sport qui sont clairement confrontés à ça. Mais pour moi, c'est acté. Donc, tous les gens qui sont négationnistes, tous ceux qui ne veulent pas y croire et tout ça, ils sont même plus pris au sérieux, puis on ne les entend pas de toute façon. Donc, tant mieux, moi, ça c'est fait. Donc, réchauffement climatique, on sait. Mais par contre, la chasse, j'aimerais avoir votre avis parce qu'il me semble que vous êtes un tout petit peu concerné.
Moi, j'ai un avis plutôt favorable. C'est-à-dire que je trouve que notre métier, c'est aussi d'être des passeurs, d'être des passerelles. Et du coup, quand je croise des chasseurs avec mon groupe, je suis ravi. Et je discute, et voilà, et qu'est-ce que vous avez chassé, qu'est-ce que vous avez vu, et depuis quand vous êtes sorti. Et j'ai eu des super rencontres de chasseurs qui connaissent parfois beaucoup mieux la faune que nous, en tout cas qui connaissent très bien le secteur où ils sont.
Leur secteur, ouais.
Voilà, des chasseurs de chamois qui vont galoper dans la montagne, dans des endroits où j'emmènerai jamais mes clients, où même moi j'hésiterai à aller. Et du coup, avec des super contacts et des vraies infos intéressantes sur... typiquement, vous allez voir, la horde de chamois, elle sera dans telle pente à 17h. Et à 17h, quand on regarde, ils sont là. Donc, merci les chasseurs.
C'est dangereux ce que tu dis, mais continue. Il y a Luc à côté.
Non, mais il a une capacité à faire du social que je n'ai pas. Donc, effectivement, sur ce genre de rencontre.
C'est très bien qu'on ait commencé par
bien.
Grégoire Bell. Juste... continue, Grégoire, avec tes fleurs et ton violon. Après,
non,
c'est Luc.
Voilà, il y a tout. Moi, j'ai des bons contacts parfois et il y a des contacts moins faciles à d'autres moments parce qu'on sent bien qu'avec notre groupe, on va déranger, on va faire peur à la faune et que les chasseurs, ça va les déranger dans leur travail, dans leur battue, dans leurs affaires.
Il y a ça et je pense aussi le fait qu'à l'inverse, on est souvent avec un public de randonneurs qui sont pour la plupart plutôt anti-chasse et que donc on est perçu dans tous les cas comme étant en conflit potentiellement avec eux. Donc comme tu le disais, avec des chasseurs ça se passe très très bien et puis avec d'autres évidemment ça se passe plus difficilement. Ouais. Et c'est un peu le cas dans tous les domaines, on est d'accord?
Bah oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, et puis il faut nuancer, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on emmène les gens à observer la faune. On a aussi un impact qui peut être négatif. Par exemple, en hiver, la faune qu'on va déranger quand on va la chercher, ce qui n'est pas notre cas, ce qui n'est pas l'activité qu'on...
Pour faire des photos, par exemple.
Voilà.
Faut pas rater le selfie. Ouais.
Et ben effectivement, on a des chasseurs qui sont foudrage parce que les accompagnateurs vendent une prestation, on va voir des chamois. Bon, mais les chamois en hiver, il faut juste leur laisser la paix et pour éviter qu'ils en meurent.
Ah ouais, d'accord, oui, en plus, c'est même pas.
Ah
rigolo,
oui, non,
quoi,
non, 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 on parle du chamois ou du tétralyre.
Ah oui, le tétralyre, c'est vachement rare, ça, je peux comprendre.
Alors, c'est vachement rare, mais c'est encore chassé également. Et pour autant, en hiver, c'est un oiseau qui, avec des conditions de neige importantes, va avoir tendance à se terrer dans un igloo.
Yes.
Comme on le disait juste avant.
Incroyable.
Et à ne pas bouger tant que les conditions sont mauvaises. Donc, s'il est dérangé et qu'il est obligé de décoller par mauvais temps et qu'il n'a pas accès à des ressources de nourriture, il peut en mourir.
Ah oui, d'accord.
Donc le dérangement de la faune, effectivement, a un impact. Donc je suis d'accord, je rejoins Grégoire sur le fait que nos activités professionnelles multiples et variées peuvent avoir un impact négatif sur la faune. Également, le fait d'avoir une présence humaine dans des lieux difficiles. Pour autant, effectivement, on n'a pas tout à fait le même avis sur la chasse, mais ça, on le savait dès le départ.
Oui, non, et puis effectivement, petite anecdote, une balade avec des enfants, on avait des traces de sang sur les cailloux sur, je sais pas, 2 ou 3 kilomètres, et on a fini par retrouver, rattraper le chasseur.
Le vététiste, le chasseur.
Qui était avec son mouflon dans son sac à dos. Les enfants étaient un petit peu choqués quand même. Voilà,
je te crois. C'est le milieu de la montagne, exactement. Maintenant, si vous avez moins de 20 ans, partez de la radio, puisque c'est Luc qui va nous donner, qui va nous parler un peu de chasse. Non, je ne sais pas en fait ce que tu vas dire.
C'est vrai.
Mais là, c'était tellement beau et gentil que je me suis dit, est-ce que les avis
non,
divergent?
Non, tu veux vraiment polémiquer?
Non, je veux que tu me donnes un peu ton avis, puisque tu es un professionnel de la montagne.
Je vais être totalement honnête.
Vas-y, balance.
Tant que je mangerai de la viande et j'aime ça...
je ne pourrais pas me permettre d'être totalement anti-chasse. Puisqu'effectivement, si on va par là, si on mange de la viande, entre un gibier correctement chassé et les poulets aux hormones ou autres problèmes dans les abattoirs qu'on peut vivre en France,
en plus,
il faut être assez réaliste et se dire que voilà, soit on devient vraiment végétarien, soit si on aime comme moi la viande, on ne peut pas être totalement anti-chasse. Pour autant, effectivement, je pense que ça reste un loisir pour la plupart, et donc non un accès à de la nourriture, et que c'est un loisir dangereux. Et que ce qui me gêne le plus, c'est que ce loisir dangereux est mis en avant par ces chasseurs comme étant indispensable.
Régulation.
Voilà, le fameux mot régulation. Et donc là, je me porte totalement en faux avec ce discours-là. La nature n'a pas besoin de nous et elle n'a pas besoin des chasseurs. Elle va très très bien se débrouiller sans nous.
La preuve, c'est qu'elle était déjà là avant.
C'est qu'elle sera là après, a priori. Ouais. Pour certains en tout cas, parce qu'il y en a d'autres qui vont partir avec nous dans la grande vague. Un petit peu de défaitisme, ça fait du bien.
Je m'en vais avec Tesla sur Mars, arrête.
Donc voilà, voilà sur la chasse, pas plus polémique que ça. Il faut être raisonnable effectivement dans son discours.
Moi, c'était plutôt ma question, mais c'est vrai que la régulation, est-ce qu'on est envahi de... Vous envoyez beaucoup des animaux en montagne, ou est-ce qu'il n'y en a pas tant que ça, ou est-ce qu'il y a des animaux qu'on ne voit plus du tout, avec les quelques années que vous avez quand même en expérience?
Moi, je trouve qu'on voit des choses. Alors, on les voit rarement avec nos groupes, parce qu'en fait, les groupes, ils sont bruyants.
Ouais.
Les gens, ils ont quand même beaucoup de mal à faire silence. Par contre, nous, dans nos pratiques individuelles, on est plus amené à se balader tout seul. Et effectivement, moi, je trouve que de la faune, il y en a. Sur cette question de régulation, de ce que j'ai pu lire et entendre un peu partout, manifestement, les carnivores, ils régulent vachement mieux que les chasseurs.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils savent taper un animal qui est faible, qui est malade, qui est jeune, et du coup, ils arrivent à maintenir des populations en état sanitaire excellent, puisque seuls les meilleurs survivent, alors qu'avec un fusil, on n'est pas aussi sélectif.
Et j'en doute pas.
Ou au contraire, on va plutôt choisir le trophée, donc le plus beau mâle, le cerf avec les plus grands bois, celui qui, au contraire, aurait permis de... Merci pour le coup de trompette, Fabien, même si toi, t'étais pas à l'antenne.
Mais j'ai coupé
nous,
le micro, oui.
Nous, on l'a eu quand même.
Allez, c'est la saison qui veut ça, les mouchoirs.
Bref, effectivement, entre une sélection sur... des animaux blessés ou malades, comme tu le disais, et sur les plus beaux spécimens, parce que c'est devenu un trophée, on ne fait pas tout à fait la régulation de la même façon avec les prédateurs.
C'est sur fin de notre parenthèse chasse, ou quelque chose d'autre à dire, c'est bon ?
Non,
on a été coupé.
Non, je crois qu'on va être coupé.
Ça va ? Ouais, pourtant, ils sont quand même larges, RKS. Ils sont quand même pas mal. Ils sont prêts à entendre plein de choses. Non, on peut juste vous remercier. C'est, on va rappeler le nom, Grégoire Bell. On te retrouve où, toi, si on veut sortir avec toi ?
Montagne Arbre, sur Internet.
Ça ne m'étonne pas de toi. Montagne Arbre, c'est ça. Hein. Donc, c'est ça. Est-ce que tu as un Facebook ? Est-ce que t'es
J'ai
branché
un Facebook.
Ouais, t'es
Montagne
branché.
Arbre.
Voilà. Ok, ça marche. Luc Benoît.
Ouais, j'ai un Facebook aussi. Et sinon, bah, vous appelez Fabien à RKS.
Non,
je sais pas. Il vous donnera notre contact sans problème.
Je suis un standard, ça y est.
Pas encore de site Internet. Pas encore de site Internet.
Facebook,
tout,
toi.
Facebook. Et tout au bouche à oreille, a priori, pour l'instant, on arrive... Déjà, on vit, donc c'est déjà pas mal. On vit de notre passion, t'as oublié de le dire. On allait partir sans en parler quand même.
C'est vrai, c'est la passion de la nature, parce que c'est quand même... il faut quand même aimer.
Tu verrais notre bureau. Tu verrais notre bureau, ça change un peu.
Oui, c'est sûr que ça change de mes studios, c'est ça que t'es en train de dire, c'est ça. Fais gaffe, parce qu'après, ils vont nous mettre des plantes après. Donc, ils sont capables. Ils me font signe que oui, tu vois. Donc...
des murs végétalisés.
Ouais, ils sont capables ici, donc fais gaffe. On a été vraiment contents de vous avoir avec nous ce soir en direct sur RKS. Si vous avez vraiment un mot de fin, c'est maintenant qu'il faut le dire. On peut encore aborder un petit sujet, il nous reste quelques minutes. Sinon, je balancerai une de mes chansons préférées.
Juste, ce métier, à mon avis, il est quand même réservé à des gens qui, avant d'être amoureux de la montagne, sont amoureux des autres, amoureux des personnes, parce que on fait pas des exploits sportifs tous les jours. On emmène des gens, on partage notre passion. Et je dirais à tous les gens qui ont envie de se tourner vers ce type de profession, la question à se poser, c'est est-ce que vous aimez vraiment les gens, ou est-ce que si vous voulez faire de la montagne, faites autre chose.
Ouais,
on fait un peu le même métier que toi, quoi. Au final,
ouais,
on crée du lien.
Voilà, et sans se promener, moi, tu vois, c'est pour ça, je vais faire appel à vous. Merci beaucoup.
Le dernier mot, ça sera merci à toi, Fab.
Oh,
merci beaucoup.
Luc Benoît et c'est Encadrement Triel sur Facebook, ou Luc Benoît, tout simplement, n'oublie pas le st. Luc Benoît, sur Facebook. Et Grégoire Bell.
Montagnard-Arbre.
Montagnard-Arbre, voilà, il fait de la pub. Tu vois, lui, ça a devenu un vrai animateur radio qui fait de la pub. Je vous laisse avec une très belle chanson, Send Me an Angel. C'est le groupe Scorpion, là, maintenant, tout de suite sur RKS. Et vous retrouverez l'émission en podcast sur radio-rks.fr. On se retrouve demain, quant à moi, 7h-10h, dans Good Morning Grenoble.
Send me an email.